Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous prolongerons le débat africain exceptionnel diffusé hier sur RFI autour d'Alain Foka. Trois présidents, le Tchadien Déby, le Nigérien Issoufou et le Congolais Tshisekedi, qui durant 50 minutes ont débattu de la situation sécuritaire en Afrique et principalement de la menace djihadiste au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Alors qu'avez-vous pensé de leurs propos? Partagez-vous le constat dressé par les trois chefs d'État qui ont, durant 50 minutes, à plusieurs reprises, indexé la gouvernance politique mondiale, de l'intervention en Libye à la dégradation du climat sécuritaire. Eh bien, ce sont les grandes puissances qui ont décidé à la place du continent africain. Trois dirigeants qui ont également fustigé le manque de solidarité de la communauté internationale qui ne respecte pas ses engagements pour équiper les armées africaines et financer la lutte contre la pauvreté carburant du terrorisme, pour reprendre la formule du président Issoufou. Alors, partagez-vous ce constat? Quelle stratégie pour enrayer la menace djihadiste? On prolonge le débat ce matin entre nous. Donc appelez-nous 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien, rendez-vous interactif avec les journalistes de RFI. Vos questions à la rédaction. Erson, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour RFI, bonjour à tous les nombreux auditeurs de l'Appel sur l'actualité.
Et on salue tous ceux qui nous écoutent à Kinshasa, d'où vous nous appelez. Vous avez des questions sur l'avenir du franc CFA?
Oui, monsieur Juan, la semaine dernière, le président béninois Patrice Talon a annoncé le retrait des réserves de l'échange du franc CFA de la Banque de France. Alors, à ce sujet, Juan, j'ai trois questions que je vais poser du coup.
Oui.
D'abord, qu'est-ce que cette réforme va exactement changer? Et puis, connaissons-nous l'agenda de sa mise en place? Et enfin, l'annonce de Patrice Talon est une première étape vers une réforme plus importante.
Ouais, alors c'est vrai que c'est un pavé dans la mare qu'a jeté le président béninois en annonçant sur RFI et France 24 qu'il souhaitait voir rapatrier les réserves de change du franc CFA qui se trouvent donc logées au trésor français afin de les faire gérer par la BCAO, la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Bonjour Olivier Roger.
Bonjour Juan, bonjour Erson.
Merci de venir nous éclairer. Vous êtes journaliste au service éco de RFI. C'est vrai que c'est une première. Hein. C'est la première fois depuis 1945, depuis la création de la zone franc, qu'une telle proposition est faite, elle constitue, on va dire, une première réponse de la part d'un dirigeant africain au débat qui secoue depuis quelques années l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à propos de l'avenir de la zone franc. D'abord, Olivier, connaît-on l'agenda de cette réforme?
Non, pour l'instant, on ne connaît pas l'agenda puisque le président béninois, Patrice Talon, est resté assez flou sur ce point. Mais pour lui, cette mesure pourrait se faire très rapidement. En outre, dit-il, tout le monde est d'accord, ça veut dire sans doute aussi la France. Il parle d'unanimité, ce qui laisse supposer donc que on pourrait avancer assez rapidement sur ce point. Avant toute chose, pour bien comprendre ce dont on parle, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur la définition de ces réserves de change. Qu'est-ce que sont ces réserves de change? En fait, les réserves d'un pays ou d'une zone monétaire, en l'occurrence, ce sont des avoirs en devises étrangères ou en or que détient ce pays ou cette zone à l'étranger, généralement dans des banques centrales à l'étranger, à la fois pour permettre de réguler les opérations de commerce international. Si vous voulez acheter en France ou en Allemagne, bah, il vous faut des euros. Et aussi pour réguler le taux de change de sa propre monnaie. Alors en l'occurrence en zone CFA, les réserves de change, le taux de parité entre les CFA et l'euro est garanti par le Trésor français, donc la parité est fixe, ce qui supprime les risques de fluctuations monétaires et en outre, Paris garantit une convertibilité illimitée, c'est-à-dire que si vous n'avez plus de devises pour payer vos importations, eh bien Paris garantit un paiement en euros.
Ouais. Est-ce qu'en rapatriant les réserves de change en Afrique, ce système avec ses avantages et ses inconvénients va changer?
C'est toute la question. Alors, d'abord, il faut préciser que ces réserves, où qu'elles soient, devront être logées quelque part. Et si on veut que ça fonctionne pour l'UMOA, il va falloir les loger dans plusieurs banques centrales à l'étranger. C'est d'ailleurs ce qu'a laissé entendre Patrice Talon, afin de pouvoir donc commercer à l'échelle internationale. Dans quelles banques vont aller ces réserves? Pour l'instant, il n'a rien dit, on ne le sait pas. Ensuite, on ne sait pas encore si l'accord qui lie les pays de la zone franc et le trésor français va être remis en question ou pas. C'est-à-dire, est-ce que le lien entre l'euro et le CFA va disparaître. C'est l'enjeu aux yeux des anti-CFA qui réclament une monnaie libre de tout lien et de toute dépendance. On sait cependant que parmi les chefs d'État de la zone ouest africaine, les MOA, la tendance est plutôt à maintenir le CFA, quitte à en changer le nom, à en assouplir les règles de parité. Il y a en fait une forme de conservatisme prudent qui, paradoxalement, s'accompagne de propos positifs sur l'émergence d'une monnaie ouest-africaine, l'écho. Or, si l'écho, qui doit voir le jour l'an prochain, est sur les fonts baptismaux, il faudra bien à un moment couper ce lien avec la France, sous peine de voir des pays refuser l'écho, comme le Nigeria par exemple.
Ouais, en tout cas, l'annonce de Patrice Talon il y a une semaine sur notre antenne n'a pas provoqué de vague, ni dans un sens ni dans l'autre.
On ne sait pas si cette annonce de Patrice Talon est une première étape vers une réforme ambitieuse ou si c'est au contraire une manœuvre destinée à calmer une partie de l'opinion publique ouest-africaine qui réclame l'abandon du CFA. Pour l'instant, les Ivoiriens n'ont fait aucun commentaire. Pourtant, vous savez que c'est un pays pivot dans la zone UMOA. Et les Français se contentent de répéter en boucle le mantra du ministre des Finances Bruno Le Maire. Paris ne décide pas, ce sont les États africains qui doivent se prononcer. La France se pliera à leurs décisions. C'est une façon pour Paris de ne pas apparaître comme voulant dicter les réformes dans un débat où la question de la souveraineté des États africains est centrale.
Et on aura l'occasion certainement d'en parler demain dans la Libre Antenne. Erson, a-t-on répondu à vos questions?
Juan, c'était superbe, je vous remercie.
Eh ben, remercier surtout Olivier Roger du service éco qui est venu nous expliquer tout cela. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'écouter l'analyse d'Abdoul Mbaye, ancien haut fonctionnaire de la BCAO et ancien Premier ministre du Sénégal. Il était l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Entretien à réécouter évidemment sur nos médias sociaux et sur le site RFI.fr. À bientôt Olivier Roger, 9h17 à Paris. D'autres questions, j'accueille un des journalistes de la rédaction brésilienne de RFI. Bonjour Elsur Amalo.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. On a reçu sans surprise de nombreuses questions concernant l'ancien président brésilien Lula. Parmi les auditeurs, on a sélectionné Augustin qui est à Cotonou. Bonjour Augustin.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
L'ancien président brésilien Lula a été libéré de prison. Oui, puis il y a une peine de prison pour corruption depuis avril 2018. Il n'est pas pour autant innocenté de ce délit. Ma première question est de savoir, au vu des accusations de corruption qui pèsent toujours contre lui, comment expliquer cette libération et quand sera-t-il s'il doit retourner en prison?
Oui, quand sera-t-il s'il doit retourner en prison? Puisque certes, Lula est libre, mais ses ennuis judiciaires ne sont pas terminés. Expliquez-nous, Elsur Amalo, pourquoi la justice a-t-elle décidé de libérer l'ancien président?
Donc, jusqu'à la semaine dernière, la Cour suprême autorisait la prison d'un condamné en appel. C'est ce qu'on dit souvent au Brésil, un condamné en deuxième instance. Il y a plusieurs instances, quatre. Donc, en l'occurrence, à partir de la deuxième instance, donc la condamnation, donc la Cour suprême autorisait la prison. Mais il y a justement une semaine, la Cour suprême a pris une autre décision, très serrée d'ailleurs, 6-5, donc les juges ont décidé qu'il faut épuiser tous les recours possibles devant la justice avant qu'un condamné commence donc à purger sa peine en prison. Donc c'est le cas de Lula et d'autres.
Lula, comme 5000 autres personnes exactement. Aujourd'hui détenues dans les prisons brésiliennes, a été incarcéré après sa condamnation en appel, alors qu'il dispose encore de nombreux recours devant les tribunaux.
Deux recours, en fait.
Tout de même. Est-ce que Lula sait quand est-ce qu'il devra ou pas retourner en prison?
Pas pour l'instant, parce qu'il y a deux recours. Donc, un au tribunal fédéral, et l'autre, le plus important, c'est justement un recours à la Cour suprême. Donc, Lula et ses avocats demandent que sa condamnation soit, et son jugement d'ailleurs, soit complètement annulé. Les motifs, la suspicion de l'ancien juge Sérgio Moro, qui l'a condamné par corruption. Il estime que Lula a été victime d'un jugement politique. Pour quel motif? L'ancien juge, aujourd'hui, est ministre de la justice de Jair Bolsonaro. Donc, ses avocats demandent l'annulation justement de cette condamnation. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ces recours vont être analysés par les juges de la Cour suprême et des tribunaux fédéraux. Donc, ça peut durer des mois ou des années.
Augustin, vous avez une autre question?
Oui, son retour en politique est-il envisageable?
Ah, retour en politique, j'ai envie de dire, Elsur Amalo, mais je parle sous votre contrôle, que dès sa sortie de prison, Lula a fait son retour dans l'arène politique.
Ah oui, il a fait déjà deux discours, un à la sortie de la prison à Curitiba, donc il a été reçu, accueilli par des milliers de ses partisans, du Parti des Travailleurs. D'ailleurs, Lula était très attendu, justement, pour remobiliser la gauche, un peu en perdition après l'élection de Bolsonaro. Donc, il a déjà annoncé, surtout dans son discours le lendemain, à San Bernardo do Campo, là où il a commencé sa carrière politique, qu'il va partir vraiment au combat. Il va lutter contre ce gouvernement d'extrême droite.
Il se positionne clairement comme le principal adversaire, le principal opposant de Jair Bolsonaro.
Aujourd'hui, il est le principal opposant, mais le problème, c'est que la justice n'autorise pas que Lula, qui est condamné par la justice, se présente en tant que candidat. Donc, il va faire justement campagne contre ce gouvernement, mais à l'heure actuelle, il ne peut pas se présenter d'ici 3 ans, au cas où il y aura des élections. Il va avoir des élections, il ne pourra pas se présenter parce qu'il est condamné en appel. Mm-hmm. Donc, il est possible que Lula fasse campagne, qu'il se positionne comme l'adversaire numéro un de Jair Bolsonaro, mais qu'il fasse campagne pour un autre candidat ou une autre candidate.
À suivre donc. A-t-on répondu à vos questions, Augustin ? Augustin ? À côté de nous, je vois encore son nom. Bon, voilà, je vois son nom sur l'ordinateur, mais visiblement, la ligne a coupé entre-temps. À bientôt, Elsur Amalo. Merci à vous.
Merci.
Journaliste au service brésilien de RFI. Appelez-nous, toutes vos questions nous intéressent. 339-693-693-70. On va à Senkun. J'ai cru entendre un coq au loin. Bonjour, Senkun.
Bonjour, Anne. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Le coq, c'était bien chez vous?
Oui, bien sûr. Bien,
c'était
oui.
Ça, d'accord. J'avais ça dans le casque en fond sonore, mais je me dis peut-être que j'entends des voix ou des chants de coq. Vous êtes à Conakry et soyons un peu sérieux, vous avez des questions concernant l'épidémie de paludisme qui sévit depuis le début de l'année au Burundi.
Ah oui, effectivement, Juan. Au Burundi, une épidémie de paludisme frappe plus d'un habitant sur deux et ne fait que se développer. Et le gouvernement refuse pour l'heure de reconnaître cette épidémie. Donc, j'ai quelques questions par rapport à cette situation. Comment expliquer cette flambée du paludisme au Burundi après, depuis le début de l'année? Et encore, la seconde question, malgré leur silence, les autorités de Burundi ont-elles pris des mesures pour lutter contre cette épidémie?
Alors, vous avez raison de préciser que cette épidémie frappe plus d'un habitant sur deux. Selon les derniers chiffres parvenus à RFI, plus de 7 millions de cas de paludisme ont été enregistrés depuis le début de l'année. 7 200 000 cas sur 11 millions d'habitants. Bonjour Esdras Dikoumana.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Journaliste au service Afrique de RFI, comment expliquer cette flambée du paludisme?
En fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette nouvelle flambée selon l'OMS, un rapport de l'OMS de l'année dernière. Il y a d'abord des facteurs environnementaux. Le Burundi est un pays montagneux à 80%, et donc pendant longtemps, les moustiques sont restés confinés dans les plaines. C'est vraiment une petite zone du pays, et le reste du pays qui est très peuplé, il n'y avait pas de moustiques, et donc il n'y avait pas beaucoup tant de cas au Burundi. Mais depuis quelques temps, il y a eu un réchauffement climatique qui frappe tous les pays du monde, dont le Burundi. Autre facteur juste qui est à côté, c'est que depuis 2 décennies, le Burundi a lancé une politique de modernisation de l'agriculture. Or, celle-ci passe par l'introduction de la riziculture de montagne, justement, et donc, eh bien, dans ces marais, eh bien, ces marais sont de véritables nids de moustiques, donc ceci explique cela. Alors, à côté de ces facteurs climatiques, il y a des facteurs économiques. Le Burundi traverse une grave crise sociopolitique et économique depuis 2015. Elle est sous sanction de l'Union européenne, qui est son principal bailleur de fonds. Donc, il manque absolument de ressources humaines, logistiques, financières pour faire face à cette épidémie. Des ONG locales rappellent que le paludisme, c'est ce qu'on appelle la maladie du pauvre. Eh bien, les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour se payer les médicaments, ou bien d'autres, ceux qui peuvent avoir une dose, la partagent avec des proches, ce qui fait que personne ne guérit dans ce cas-là.
Ouais. Et puis, il y a un point, Esdras Dikoumana, rappelé par notre auditeur, c'est que les autorités ne reconnaissent pas cette épidémie.
Absolument. Et ça, c'est vraiment pour des raisons politiques, selon certains médecins, acteurs de la société civile, parce que nous sommes à quelques mois, à 7 mois exactement des élections générales, dont une présidentielle qui est cruciale. Eh bien, le gouvernement ne voudrait pas reconnaître cet état de fait, ce qui fait que la réponse n'est pas à la hauteur.
Oui. En quelques mots, Esdras Dikoumana, malgré le silence des autorités, il y a quand même des mesures qui sont prises par le gouvernement.
Oui, absolument. Il y a des mesures qui ont été prises depuis quelques temps. Eh bien, par exemple, je vais vous citer quelques exemples. Eh bien, le gouvernement est en train d'introduire une nouvelle molécule pour le traitement, ce qu'on appelle le traitement de première ligne, lorsque quelqu'un tombe malade directement, parce que le traitement qui était utilisé jusqu'ici, eh bien, n'est plus efficace. Entre-temps, eh bien, il y a un programme aussi de pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides dans les maisons qui a été lancé dans les provinces les plus touchées, et une distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides peut débuter dès le mois prochain.
D'accord. En tout cas, les ONG rappellent que tant que l'épidémie de paludisme n'est pas déclarée au Burundi, eh bien, ça ne déclenchera pas d'aide massive de la part de la communauté internationale. Merci beaucoup, Esdras Dikoumana, Senkoun. Bonne journée à Conakry. On va terminer avec un sujet un peu plus léger. On va parler football. Thomas de Saint-Léger du service des sports est à mes côtés d'ailleurs. Bonjour Thomas.
Bonjour Juan.
Des questions sur Liverpool. Liverpool, premier en tête de la Ligue, de la Première Ligue, en tête du championnat d'Angleterre. Des questions posées par Fadel. Bonjour.
Juan, bonjour. Bonjour à tous les éditeurs de la RFI.
On vous écoute.
Le leader du championnat d'Angleterre, Liverpool a battu Manchester City et le Sénégalais Sadio Mané a encore une fois de plus participé à la fête en marquant un but.
Oui.
Alors que Liverpool n'a pas remporté la Première Ligue depuis 1990 et que le club possède 9 points d'avance déjà sur City, peut-on considérer que c'est l'année ou jamais pour le club de remporter le titre ?
Ah, c'est vrai que Liverpool réalise le meilleur début de saison de son histoire, Thomas de Saint-Léger. Liverpool, on peut rappeler quand même le palmarès.
Voilà, c'est quand même 18 titres de champion d'Angleterre. Le dernier, notre auditeur nous le disait, c'était en 1990. C'est vrai que ça remonte maintenant. Sa question, c'était un peu celle-là. Est-ce l'année des Reds ? Moi, je vous dis oui, sans doute. Parce que leur animation est rodée, parce que leurs joueurs clés sont sans doute dans la forme de leur vie. Et le parcours après 12 journées est fantastique. Hein. 11 victoires, un match nil, ce rythme peut-être sera impossible à tenir. De là, les voir craquer complètement, je ne pense pas, d'autant qu'il y a un avantage psychologique pris sur le principal rival Manchester City depuis le week-end dernier. Et cette victoire 3-1 à Anfield, il y a 9 points entre les deux. Leicester et Chelsea sont intercalés, c'est vrai, à 8 longueurs, mais on parle là d'équipes qui, a priori, n'ont pas les reins assez solides pour aller chercher Liverpool.
Donc, si je vous entends bien, si je comprends bien votre analyse, le championnat est plié.
Oui, le trou est fait, c'est même un gouffre, hein, si on va plus loin dans le classement pour retrouver la trace d'Arsenal, de Manchester United, de Tottenham. Donc, en fait, vous avez combiné deux facteurs. Une équipe des Reds au sommet de son art et en face des rivaux irréguliers. Sachant en plus que Liverpool, on s'en rappelle, a gagné la dernière Ligue des Champions, que cette pression-là est évacuée et que le titre de champion d'Angleterre est cette année peut-être l'ambition, voire l'obsession de l'entraîneur Jürgen Klopp.
Évidemment. Fadel, vous avez une dernière question. Vous parliez de Sadio Mané.
Oui, Sadio Mané qui s'affirme de jour en jour comme un candidat crédible au Ballon d'Or. Donc, quelles sont ses chances que le Sénégal remporte ses trophées ?
Ah, sera-t-il sacré Ballon d'Or cette année ?
Ah, c'est vrai qu'ici, RFI, on ne serait pas contre un deuxième Ballon d'Or africain presque 25 ans après George Weah. C'est vrai aussi que Sadio Mané a beaucoup d'arguments pour lui. Finaliste de la CAN, vainqueur de la Ligue des Champions, deuxième du championnat d'Angleterre 2019 en passant le meilleur titre de co-meilleur buteur. À cela, vous rajoutez un début de saison qui est excellent sur le plan personnel et collectif. En temps normal, cela suffirait, sauf qu'il a en face de lui eh bien, les deux extraterrestres du football que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Eux aussi, sur le plan statistique, ont réussi des saisons excellentes. Eux aussi ont gagné des titres, le championnat d'Italie pour Ronaldo, le championnat d'Espagne pour Messi. En plus de celle-là, il y a un quatrième larron, une concurrence interne, Virgil van Dijk, défenseur de Liverpool, sacré meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Donc on va dire ces quatre-là, ça se jouera entre ces quatre-là, 25% de chance. Mané payera peut-être sa relative discrétion. On sait qu'il n'était pas dans le top 4 du prix FIFA de Best.
Ouais. On en parle demain, si vous voulez, d'ailleurs, dans la libre antenne. Vos pronostics pour le Ballon d'Or, d'ores et déjà sur l'antenne de RFI. Merci beaucoup, Thomas de Saint-Léger. On salue Fadel, qui est arbitre, d'ailleurs. Arbitre, il est passionné de football. Restez avec nous, on retrouve l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.